Je sais que je vais mourir un jour. On sait qu'on va mourir un jour. On sait aussi qu'on peut pas y échapper. Hein. C'est une finalité certaine pour nous en tant que mortels, en tant qu'animal. Mais on veut pas y penser. On essaie peut-être de la cacher dans notre esprit pour ne pas être figé devant la vérité d'une vie qui a une finalité certaine. On ne sait pas non plus quand la mort va venir nous frapper. Parfois, on a des mois et des années pour se préparer parce que notre santé se dégrade. Mais parfois, c'est un vrai blindside. Et c'est un peu terrifiant, j'imagine, pour l'espèce humaine et pour les individus, de réaliser qu'il y a une incertitude complète. Mais la question n'est peut-être pas là. On comprend que cette incertitude, comme je l'ai dit, mais peut-être que la réponse face à la mort, face à cette noirceur, à cette opportunité singulière que nous avons, peut-être que la réponse, c'est de se débattre jusqu'à la fin. Je suis Raphaël Gagné et vous êtes dans ma chambre d'écho. C'était The Strokes avec Call It Fate, Call It Karma de l'album Come Down Machine de l'année 2013. Une pièce sublime pour moi, encore une fois, pleine de nostalgie. Et peut-être avec cette fibre du vide-là, hein, musicalement, ce mur de son, une belle fumée. C'est volatile comme chanson. Il y a une tristesse, mais il n'est pas certain de déceler d'où elle vient nécessairement. Et The Strokes est un groupe varié et très passionné. Et dans les albums précédents, parce que ça, c'est leur album le plus récent, dans leurs albums plus précédents, il y a ce côté rugged, raw, que j'adore. Et je vous invite à jeter un coup d'œil à leur discographie entière. C'est très varié. C'est intéressant. On a peut-être un album pour chaque moment de la vie, chaque personne. On peut trouver certainement son compte avec ce groupe-là, que ce soit du côté plus rock, un côté un peu plus mélodieux, un peu plus formulé, parfois des albums avec un peu plus de piano, de synth, un peu plus futuriste d'une certaine façon. Les Strokes ont vraiment une note pour tous, je crois. Et j'aimerais focusser peut-être rapidement sur l'album Is This It, qui est selon moi un incontournable du début des années 2000. Un album short and sweet, mais avec une belle structure, une belle folie. C'est raw, comme je l'ai dit, mais c'est ingénieux. Il y a cette fraîcheur de la jeunesse que les Strokes mettent à leur, à leurs recettes. Mais Is This It, si j'avais un album à vous suggérer, c'est clairement celui-là. Pour ce qui est de la mort, j'aimerais peut-être commencer en disséquant ce qu'elle est et ce qui la compose. Et ça me semble incontournable peut-être de parler du début de la vie, d'un commencement, sans trop s'attarder à la vie en soi, mais à faire un retour aux sources pour comprendre ce qui mène à la mort. Et pour moi, je crois qu'un être humain qui vit au monde a certaines acceptations à faire envers sa condition. Presque une soumission primitive, d'une certaine manière. Et je la décortiquerai peut-être en premier en parlant et en reconnaissant pour l'individu l'absurdité de la vie. Réfléchissons à ce monde interconnecté entre plusieurs individus qui ont leur réalité profonde, composée de souvenirs puissants, d'émotions tangibles et de relations entre ces humains-là. Cette collision, comme je l'ai peut-être énoncé avant, entre personnes et qui se rencontrent et qui s'est fait une toile absolument bizarre de communication entre des animaux qui, par chance pure de l'évolution, en viennent à se réaliser et à se comprendre à un niveau très particulier. La vie est absurde. Les projets, les pensées, les déceptions et ce monde interrelié, on ne peut y échapper. Cette solitude qui nous caractérise, mais ce monde où on peut parler à d'autres personnes, les regarder dans leurs yeux et qu'il y a une compréhension, quelle absurdité! Et pour naviguer vers la mort, l'être humain doit accepter peut-être qu'à la source des choses, la vie n'est qu'un simple jeu diabolique de chance, de malchance, d'aléatoire et de détermination personnelle à l'intérieur, d'une manière ou d'une autre. C'est une boule paradoxale, spéciale, et comme je l'ai dit, absurde. Ne l'oublions pas et acceptons-le le plus tôt possible pour cheminer vers notre finalité. Nous venons au monde, je parlais d'aléatoire, nous venons au monde d'une manière très aléatoire. Il y a une injustice qui caractérise l'arrivée de l'être humain et son futur est déterminé d'une certaine façon par où il atterrit. Ses conditions de naissance, son opportunité même à la vie est hiérarchisée par un roulement de dés. On ne peut pas choisir le pays ou nos parents. On n'a pas d'impact sur l'environnement dans lequel on arrive. Et ça crée une injustice entre les individus, c'est certain. On n'a pas tous le même support, les mêmes opportunités, à l'intérieur même de cette structure sociale-là dans laquelle nous naissons. Et cette injustice sociale, individuelle, est même palpable au niveau de notre âge de mort. Nous n'avons même pas tous la même chance mathématique, le même temps sur cette terre. L'âge même de la mort dépend de cet aléatoire. On peut parler d'une différence de 30 ans, juste selon la nation dans laquelle nous sommes nés. Hein? On regarde les pays occidentaux, où l'âge est aujourd'hui autour de 80-82 ans, j'y reviendrai. Et pensons aux pays de l'Afrique, qui par cette malchance d'être restés dans un continent aride, difficile pour l'agriculture, avec des sécheresses affreuses, juste par cet aléatoire géographique. Les individus naissant en Afrique, par exemple, disons en Somalie, pour nommer un pays, ou l'âge moyen est peut-être d'une cinquantaine d'années. Et nous voyons qu'il y a cette injustice, comme je l'ai dit. Partout, nous devons l'accepter parce que nous n'avons aucun contrôle sur ces circonstances. Il n'y a donc pas de logique à notre lieu d'atterrissement et nos possibilités sont restreintes. Et l'inégalité règne. L'inégalité est reine chez les humains. Il faut s'accepter par le fait même, malgré cette injustice, qu'il y a une possibilité qui s'offre à nous. Et on doit partir, peu importe notre point de départ, et accepter notre situation, et ne pas se laisser dominer et guider par la circonstance brute des choses. Chacun a la possibilité, malgré tout, de tracer sa route, malgré la malchance. Le vrai désastre humain, c'est d'accepter le rôle de pantin du destin et d'abandonner sa capacité et son opportunité propre à changer sa réalité. On doit aussi peut-être accepter que l'être humain joue un jeu dangereux avec le temps. Hein? La commodité la plus chère pour le mortel. Et il y a certainement un gaspillage de cette commodité. Il y a une perte de temps qui se fait, évidemment, à l'intérieur de la vie d'un être humain. Il faut accepter que la perte de temps, en soi, est justifiable. C'est compréhensible pour l'être humain de prendre le sablier et de laisser le sable à l'intérieur une fois de temps en temps couler en le regardant, juste par plaisir un peu détourné. La bête s'ennuie, gaspille. Il faut comprendre que ce temps ne reviendra jamais, évidemment. Et le donner, si on a à le donner et gaspiller ce temps, le donner en pleine conscience de l'usage que nous en faisons. L'envers de la médaille, par contre, avec ce temps précieux, cette commodité, comme je l'ai dit, cette monnaie rare, c'est que lorsqu'il est temps de s'activer, lorsqu'il est temps de vivre, lorsqu'il est temps de faire quelque chose de soi, ce qui est le vrai quotidien de l'être humain, hein? Le gaspillage compte un pourcentage faible de la projection d'un être humain. Il faut prendre au sérieux l'opportunité qu'on a et le temps que nous avons. Ne gaspiller que très peu, accepter de gaspiller parfois, mais se rappeler que lorsqu'il est temps de s'activer, de le faire avec un professionnalisme et un sérieux pour le soi, qui émane d'un self-respect, selon moi, qui est essentiel. Acceptons la perte de temps, mais comprenons l'envers de la médaille et ce que ça représente. Il faut aussi comprendre, peut-être, avant toute chose, qu'il y a une impossibilité de ne pas mourir pour l'être humain. On n'a pas le choix. Et même si on a le choix, on a peut-être toute une vie, parfois. Dans de petites occasions comme dans de grandes et de moyennes, on a l'opportunité de changer le cours des choses pour nous-mêmes. Je crois profondément que le choix est là, mais pas pour notre finalité. Et comme je l'ai dit, nous faisons partie de ce jeu diabolique dans lequel la roue tourne et efface plus facilement que tout. Notre sort final et hors de nos mains. Et encore pire, peut-être, la finalité brute, totale, finale, la finalité finale ne pourrait pas être plus certaine pour le mortel. Il ne peut pas échapper, même en s'attachant à la religion, pour se faire aspirer à un paradis, à une seconde vie, un prolongement. La finalité est pareille, terrestre. Et là. Les êtres humains sont très fragiles. On a une faiblesse physique d'animal. Un couteau peut nous voler la vie en l'espace de quelques minutes. Juste vider de notre sang rapidement et la vitalité nous quitte. En un claquement de doigts. Un impact peut nous chavirer. Un muscle pompeur de sang, le cœur, qui dicte notre vie, peut s'arrêter à cause d'une simple défaillance mécanique, presque, et tout s'arrête. On a une chance, sur 127, de mourir à cause d'une chute, d'une simple chute. Et une chance, sur 114, en accident, de mourir d'un accident de voiture. Et si on me proposait ces chances-là, pour la loterie, soyez certain qu'à chaque semaine, j'irai acheter mon billet. Les chances de loterie sont dans les millions sur une. Ici, on parle de 100. 1 sur 100. On a une chance sur 7 aussi. Sur 7. Donc, le tueur principal, les tueurs principaux, sont les problèmes cardiaques et le cancer. Et donc, lorsque je parle de certitude, c'est aussi qu'on est certain qu'on va mourir, mais presque aussi certain de comment on va mourir lorsqu'on regarde les statistiques. Il faut respecter que la catastrophe peut nous anéantir en un souffle et que se soumettre à notre propre faiblesse physique pour faire les bons choix. Parce que nous sommes enchaînés par notre animalité simpliste. C'est au cœur de qui nous sommes, indétachables de l'esprit. Il faut donc reconnaître notre propre défaillance et respecter la limite pour ne pas tout perdre à jamais par une mauvaise décision. Et aussi bête que ça puisse paraître, on ne peut qu'espérer que la pure malchance d'un accident bête, d'une maladie, on ne peut qu'espérer que cette malchance-là ne s'abatte pas sur nous. On ne peut que vivre de cette tactique d'impuissance. Il faut respecter sa propre impuissance en tant qu'être humain, selon moi. Pour vivre aussi, la seule façon de ne pas gaspiller cette opportunité-là, en même temps, ce paradoxe, c'est de faire l'expérience du grandiose personnellement. Il faut se mouiller pour maximiser l'existence, la conscience, l'expérience et la personne qu'on est. L'expérience et la connaissance froide des choses, on les additionne et on obtient la compréhension humaine ultime. Et donc, il est là le paradoxe aussi que nous devons accepter. Il faut jouer avec le feu pour aller soutirer à la vie les grandes lignes et nous les approprier. Et dans peu importe quelle sphère ça peut être. Et le danger nous guette donc constamment puisque nous sommes aux abords et nous dansons entre le danger et la sécurité. Et entre cette ligne-là, parfois, on peut se faire prendre. Mais c'est ça, l'humanité. On n'a pas le choix de se risquer pour aller cueillir la fleur. On ne peut pas que se tenir aux abords, malheureusement. Il faut risquer pour vivre et être. Il faut être prêt à risquer. Ne l'oublions pas et acceptons-le aussi. Ce beau paradoxe. Évidemment, tout ce temps-là, toute cette vie nous est prêtée. Il faut donc chérir le temps, le peu de temps que nous avons, le chérir et en profiter. Et minimiser ce gaspillage un peu fou dans lequel On voit l'animal qui s'ennuie, le minimiser, ce gaspillage-là que je parlais. Et chérir les quelques années que nous disposons pour devenir et faire des choses. Nous sommes sur une planète fantôme. Pour une seule vie, il y a 15 fantômes. Et par fantôme, j'entends évidemment 15 êtres humains qui sont morts sur cette planète. Ça représente 130 milliards de morts, de fantômes, pour 7,5 milliards d'êtres vivants présentement sur la Terre. Nous sommes dans un monde de squelettes. Dès notre genèse, dès notre naissance, nous faisons partie de ce monde. Et nous sommes voués à disparaître, donc. C'est dans notre nature profonde. On en vient à reconnaître, donc, qu'on a cette fenêtre d'opportunité définie, à l'intérieur même, peut-être, des âges d'une vie. On est, et puis peut-être jusqu'à 20 ans environ, on est à l'apprentissage des normes, de la base, de nos balbutiements philosophiques personnels. Et donc, il y a un 20 ans qui est presque gaspillé à l'intérieur d'une longévité de 80 ans. Ça représente le corps, 25% d'une vie pas perdue, mais parce qu'il y a beaucoup d'apprentissages qui se font, évidemment. Il y a une autodéfinition magnifique, un processus qui se fait. Mais il faut reconnaître et comprendre que la maturité du cerveau ne vient qu'à 25 ans. Et c'est donc à partir, peut-être, officiellement de ce 25 ans-là qu'on peut définir que notre croissance cérébrale et humaine, donc, se finalise. Mais je mets quand même peut-être de 20 à 25 ans, il y a quand même une certaine maturité qui se met en place, qui se prépare. Et donc, je dirais plus que de 0 à 20 ans, on a des années qui sont plus poussiéreuses, sablonneuses, qui ont plus tendance à être balayées par le vent du temps. Et rappelons aussi qu'en fin de vie, les dernières années d'un être humain peuvent se compliquer et devenir un vrai capharnaüm. Donc, on n'est pas garanti que de 25 à 82 ans, on n'est pas garanti que peut-être les 5 dernières années d'une vie sont nécessairement en pleine santé. Hein. Donc, cette fenêtre d'opportunité définie-là, cette hiérarchie des âges est bien réelle. Il faut en être conscient. On perd des années même que l'on croit avoir acquéries. On les perd, peut-être, d'une certaine façon. On se trouve avec une période de 25 à peut-être 70 ans. Évidemment, les chiffres diffèrent d'une vie à une autre. Mais grossièrement, on se rend compte qu'il y a une période définie dans laquelle il faut s'activer. Je rappellerai que l'âge moyen, comme je l'ai dit, est autour de 82 ans en Amérique du Nord. Et c'est une moyenne entre l'homme et la femme. Évidemment, l'homme se retrouve environ à 80 ans et la femme à 84. Pour des raisons multiples, pas nécessairement complexes, mais multiples. Donc, je n'irai pas en profondeur dans ce sujet. Mais on peut comprendre que la condition de vie de l'homme et de la femme diffère un peu, notamment par le travail. Et il nous reste donc un maigre 60 ans pour innover, forger, créer et maintenir ce qu'on est. Et c'est très peu dans un terrain de jeu vaste comme la Terre. Notre opportunité est petite, ou la fenêtre de notre opportunité est petite, de nature. On est donc un peu comme une machine. On a une date d'expiration définie. Cette obsolescence programmée nous caractérise presque nous-mêmes en tant qu'humains, en tant que créatures de vie. On ne peut pas non plus trop défier le temps. Hein? les limites extrêmes de l'humanité se portent à peut-être un siècle et presque demi de vie au maximum. Les records doivent être autour de quoi? Une 120aine d'années peut-être au maximum. Et c'est au maximum. C'est le plafond de l'être humain. On a donc une limite qui est tracée pour nous et on doit s'y plier comme l'animal que nous sommes. Mais en plus d'avoir une fenêtre d'opportunité définie, on doit prendre et s'accaparer encore plus de temps pour se apprivoiser, apprendre à se connaître. On a besoin du précieux temps pour s'apprivoiser soi-même. On ne peut pas y échapper. Parfois, avant même de pouvoir partager, contribuer, aider, créer, on s'accapare ce temps précieux et nécessaire, et ce, continuellement. Et on n'a pas le choix non plus. Si on veut bien vivre, on doit se garder un temps précieux que pour soi. Et donc, on se retrouve encore à effacer des années, en théorie, de notre fenêtre. Pendant cette vie aussi, parfois on a une aptitude à être et à vivre à cause d'un manque de perspective et d'expérience. Et en tant qu'être humain, on se doit d'attendre et de se raffiner avec des expériences externes qui viennent nous faire prendre une maturité. C'est pas parce qu'à 25 ans, notre cerveau est mature de manière physiologique que nécessairement mentalement, on arrive un jour à un point en tant qu'humain où on est final. Il n'y a pas de version finale. Donc, ce gain de l'expérience-là est nécessaire. Toujours. On est toujours à la recherche de cette expérience, de cette sagesse qu'on peut acquérir. Et on doit se donner l'espace pour découvrir. On n'a pas le choix. Parce qu'en jeunesse, oui, évidemment, on sait qu'on a du temps devant soi. Notre perspective sur le temps est plus limitée que pour une personne de 50 ou 60 ans, pour qui une année ne représente qu'un faible pourcentage de son existence totale. Plus on vieillit, plus une année semble passer vite. Parce que nous en avons beaucoup plus de fait. Il est là le paradoxe. On sait qu'on a du temps devant soi. Et donc, on tente peut-être de planifier aussi et de se préparer aux éventualités et à ce qu'on doit devenir. Et devant l'inconnu, l'incertitude, on gruge du temps pour anticiper, planifier, calculer. Il y a donc cette tentative de prévision du futur et de préparation. On essaie de raffiner l'usage d'un temps prochain qui viendra. Et ce n'est pas nécessairement mal non plus. Celui qui ne se projette pas gaspille et n'apprécie pas l'opportunité. L'opportunité unique qu'il a. On doit aussi peut-être se tracer une certaine trajectoire de vie qui fait du sens pour qui nous sommes, profondément. Et donc, on anticipe, et on maximise le présent prochain. Et je ne l'appellerai même pas le futur, parce qu'on fait la prévision du présent. On ne peut que gérer le présent. Donc, on prépare la gestion d'un présent prochain avec cette planification-là. Mais évidemment, avec toute cette planification, tout ce gain d'expérience, de cet espace qu'on se laisse pour se connaître, s'apprivoiser, la mortalité nous guette constamment, même pendant la vie. On a des chaînes qui nous gardent profondément animales. Mais on essaie continuellement de se distancer de notre condition d'être limité. on attend, on prépare, on prévoit. Et on respecte tellement l'intellectuel. Mais on reste enchaîné et restreint dans la possibilité ultime par cette temporalité-là qui nous habite. Nous ne pouvons être que dans ce cadre temporel. Et nous sommes donc emprisonnés par cette mortalité-là, cette limite à notre vie elle-même. Et le temps continue d'avancer. Il a ce caractère absolu-là. Le temps, par définition, et sous les conditions physiques terrestres, n'arrête pas. Et évidemment, le temps est relatif, ne l'oublions pas. Mais sur Terre, le seul temps qu'on connaît n'arrête pas, ne s'arrête pas pour nous. Et on doit continuellement presque se forcer d'arrêter soi-même. Se créer une fenêtre à travers laquelle on peut regarder notre vie, regarder des moments magiques qui se passent dans le présent même et tenter de les capturer. Parce qu'on sait profondément que le temps ne s'arrêtera pas pour nous et ne nous laissera pas l'opportunité. Il faut créer soi-même ces moments-là. Et on ne peut pas lui demander d'attendre non plus. Ce n'est pas notre mandat. Je rappelle, nous ne sommes qu'animal. Avec un esprit profond, certes, mais animal. C'est donc difficile pour nous d'arriver à la hauteur d'une telle tâche. Le temps dicte et nous pressons le pas. À l'intérieur même de ce combat-là qu'on mène contre le temps et contre nous-mêmes, il y a cette réalisation-là qu'on doit faire, qu'on a une limitation temporelle de ce qu'on peut maîtriser et creuser en profondeur. Et il y a ce défi donc de sélection qu'on doit mener. On doit limiter ses sphères de passion et de hobby continuellement si on veut maîtriser quelque chose. De concentrer notre attention sur quelques-unes ou quelques-uns des sujets et de ces sphères-là qui nous intéressent le plus. Parce que sinon, on n'a qu'une connaissance en surface des choses. Et donc, oui, on peut être un excellent guitariste et après, peut-être se concentrer sur, par exemple, l'écriture. Mais on ne peut pas en même temps avoir 8 ou 9 ou 10 mandats et passion. Parce que pas assez de temps non plus dans une vie, dans un 60, dans un 70 ans, dans un 80 ans, il n'y a pas non plus assez de temps pour aller en profondeur dans toutes ces sphères-là. On se retrouve dans un monde où il y a trop de possibilités, où il faut sélectionner de manière cruelle avec qui nous sommes. Et apprendre à sélectionner aussi, apprendre à filtrer et aller chercher les choses qui nous font vibrer profondément pour ne pas perdre ce temps si précieux. Et je l'ai dit, nous sommes liés par le temps, évidemment. Et lorsqu'on parle du temps, on parle du passé, du présent, évidemment, et du futur pour le décortiquer d'une manière consommable. Mais comment est-ce qu'on doit répondre à la volatilité du passé et du futur, des temps sur lesquels nous n'avons plus aucun contrôle? Et le présent même se tisse tout le temps vers le passé, se transforme à la seconde près en passé. Il nous échappe. On se doit d'apprécier le moment en soi. Pour répondre à ce passé et ce futur-là, c'est difficile à capter et impossible à capter même. Le passé est déjà figé. C'est impossible de changer son cours. Et le futur est inconnu. On peut préparer, comme je l'ai dit, mais il est impossible de prédire son déroulement. Parce qu'il n'y a que le présent qui va déterminer ce que le futur deviendra. Et donc la réponse est de se concentrer et de concentrer son attention sur le présent pour maîtriser, aussi petite soit-elle, une part du temps. C'est le contrôle humain sur le temps. Aussi petit puisse-t-il être. Évidemment aussi, pendant cette vie, pendant ce combat, on a des tactiques, des manières pour, de contrôle pour maximiser cette longévité-là. On travaille sur notre santé à travers la diète, l'exercice, notre mentalité, pour citer quelques exemples. Pour tenter d'ajouter du temps au compteur d'une manière mathématique et de mieux vivre au présent. Donc, on a un certain quand même contrôle, peut-être, des conditions dans lesquelles se déroule notre vie. Et donc, on tente peut-être de manger mieux, de philosopher pour déterminer une mentalité, je dirais pas gagnante, mais saine. On fait un exercice physique pour maintenir le corps en bonne forme et délayer peut-être cet arrêt cardiaque que j'ai mentionné. Il faut prendre ce petit contrôle qu'on a, évidemment. C'est la seule façon qu'on a peut-être d'aller jouer un peu sur l'horloge. Et donc, de ne pas prendre au sérieux les seules petites variables qui ont un impact sur notre longévité me semble être un faux pas catégorique. On accumule aussi avec l'âge cette sagesse ultime. On se raffine. Et il y a l'art de parfaire sa formule à travers les années, à travers les expériences, à travers les pensées, les interactions, la nouveauté, les connaissances. On tente de raffiner notre art de vivre intérieur. Et à travers cette sagesse-là, cette acquisition-là, et avec l'âge, on en vient peut-être à vouloir partager et donner notre connaissance profonde des choses à la nouvelle jeunesse pour qu'elle puisse poursuivre le travail pour nous lorsque nous ne serons plus là. Il y a ce désir profond humain de partager avant qu'il soit trop tard et de donner des indications à ceux qui viennent après nous pour qu'ils évitent de perdre du temps dans certaines avenues comme nous l'avons fait. Et ça, c'est profondément humain. Et je crois qu'on a tous ce désir-là en nous d'enseigner, de partager, de donner à autrui. Et nous le faisons de la manière la plus instinctive dans cette passation-là du savoir et de la sagesse humaine. On peut aussi avoir des enfants pour prolonger le soi. Avoir des enfants, c'est combattre la mort en donnant un souffle au cycle de la vie, un souffle des plus personnels à ce cycle dans lequel nous n'avons qu'un contrôle et qu'un impact indirect, mais tout de même. C'est ce désir de laisser quelque chose de vivant après son propre départ. Et je crois qu'il faut réaliser aussi qu'avoir des enfants peut-être nous rappelle cette importance pour l'être humain de défier la mort jusqu'au dernier souffle. L'être humain aussi veut accomplir des choses, devenir, être profondément pour immortaliser, pour tricher la mort. Et on génère donc du matériel humain assez solide pour tester l'épreuve du temps et parler pour nous lorsque nous serons frappés par le mutisme final. C'est l'affront ultime devant un monde qui est régi par le temps et qui est froid et qui avance sans réfléchir. Une simple force. C'est la réponse de l'humanité à travers l'accomplissement. C'est un affront devant les dieux. Mais devant tous ces défis-là qu'on se mène et qu'on se donne, on oublie la finalité peut-être. On est tellement concentré, et c'est parfait, mais tellement concentré sur ce travail intense et ce travail constant, impliqué dans le présent, que ça nous éloigne de la perte et du caractère froid de la vie et de la mort. Et c'est dans ce quotidien-là qu'on finit par perdre notre perspective du temps et de notre temporalité. Mais à un moment ou à un autre, on doit faire le deuil de ce que j'appellerais le monument. Nos monuments. Que ce soit nos parents, conjoints, amis et proches qui tombent graduellement au combat devant nos yeux ébahis. Et c'est un retour brutal à la réalité, malgré l'oubli pratique qui nous permet de s'activer et de ne pas figer devant notre impuissance. C'est inévitable. Et malgré cette fin qui nous est rappelée et les blessures accumulées du temps, on se doit de progresser tout de même. Parce que si on reste figé, comme je l'ai dit, devant la grandeur de la mort et de la perte de nos monuments qui nous ont érigés monuments aussi à notre tour, on se perd soi-même et on laisse la mort gagner si on ne progresse pas et on continue pas à brandir l'épée. Dans une absurdité totale, mais justifiée pour le mortel. Nous devons continuer notre chemin, malgré ces cicatrices qui nous marquent avec le temps. On doit aussi respecter et penser à la mort, je crois, et ne pas l'éviter, ne pas avoir peur de l'affronter intellectuellement, de la regarder, de la fixer. Pour se garder humble et pour se rappeler et pour diminuer aussi peut-être la taille de notre ego mal placé. Nous ne sommes que simples mortels, pouvant accomplir de grandes choses, mais nous ne sommes pas plus grands ou plus petits que nature. Nous sommes nature. Il ne faut pas l'oublier, malheureusement. Le monde dans lequel nous arrivons est un monde dans lequel le négatif est très bruyant. La blessure laisse la cicatrice. Il est plus facile de critiquer que d'apprécier. L'échec déplace plus d'air dans le présent que la réussite. Et c'est comme ça. Parce que nous sommes profondément humains et c'est de cette manière que nous réagissons face à la catastrophe. Parce que ça vient de notre désir animal de survivre et de gérer la problématique pour que le paisible vienne un jour et que le calme soit. Mais c'est cette réalité d'un monde où ce négatif prend une place immense. Et nous devons survivre à cet univers, à cette bulle dans laquelle nous faisons profondément partie. Il ne faut pas se tourner vers le pessimisme ou le nihilisme, et abandonner d'avance, et voir tout dans une noirceur et un gris qui tache tout ce qu'il y a autour de nous. Mais la mort reste. Et puisqu'on pense à la mort, et qu'on veut la garder proche, parce qu'on garde nos ennemis encore plus proches que nos amis, selon le dicton, il y a ceux qui succombent pendant leur parcours. Et je parle évidemment du suicide, qui a une chance sur 95, si on garde le même rapport que tout à l'heure, une chance sur 95 de nous prendre. Et évidemment, c'est un sujet vaste qui pourrait mériter son épisode. Mais laissez-moi résumer peut-être. Environ 70% des suicides modernes en Occident sont commis par des hommes. Et les risques les plus élevés de ce suicide sont de 40 à 59 ans, particulièrement chez les hommes blancs et les Indiens. J'entends les Indiens natifs de l'Amérique. Mais c'est aussi la cause principale de la mort chez les 15 à 34 ans, chez les plus jeunes. Et il y a 25 tentatives de suicide pour un suicide commis jusqu'à la fin. Donc ça prend une part quand même assez importante. Et prend la vie peut-être de nombreux êtres humains qui n'ont plus la force et le désir de mener ce combat éreintant et décident de s'autodétruire pour balayer tous les défis et tous les maux de la vie, les balais du revers de la main. Et dans le suicide, il y a ce désir d'éliminer tout ce bruit sans compromis. C'est l'abandon ultime. Mais il n'y a pas de honte à le déterminer, à le définir, évidemment. Il faut le voir comme ce l'est, selon moi. Et c'est l'abandon humain ultime. Mais pour ceux qui restent, ils peuvent comprendre que l'humain met au défi l'intemporel en créant de la vie, de l'art et en se présentant tous les jours au bâton, même s'il connaît sa propre fin inévitable et qu'il est conscient de ses limites. Il y a un combat à mener, même si tout se termine dans la poussière. Et donc, il y a ce duel à mort-là entre l'éphémère et l'éternel. Mais plus on avance, plus on s'approche de la noirceur finale du décès. Vieillir, c'est faiblir aussi. Les limites physiques qui étaient si loin de nous, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, finissent par nous rattraper, lentement mais sûrement. Et il y a ce déclin de la santé générale du corps-là, parce que les cellules ne se régénèrent plus aussi bien. Et évidemment, il y a beaucoup de choses encore à apprendre scientifiquement à ce niveau-là, mais de manière grossière, on peut comprendre le vieillissement par cette mort cellulaire. Et donc, cette dégradation globale de la santé de l'être humain, qui est composée que de cellules. La circulation sanguine se complique. Les muscles, les organes sexuels s'atrophient. Le corps humain a fait son chemin et les complications suivent. Et lorsqu'on parle de complications, ça amène peut-être ce questionnement sur bien vivre dans la santé et ou s'accrocher, médicamenter pour synthétiser la vie et s'acheter du temps encore plus. Mais dans un cadre précis où on est forcé de prendre des pilules et de s'injecter de substances qui nous éloignent peut-être un petit peu plus à chaque jour de notre humanité profonde. Et c'est encore plus vrai de nos jours, alors qu'on médicamente les gens beaucoup pour les maintenir en vie. Est-ce qu'on garde un confort naturel ou on se drogue pour allonger les mois, les années, entre autres avec la médecine palliative? C'est une question à se poser peut-être dans cette modernité-là, où la technologie avance et nous offre des options multiples. Avec l'âge, on devient plus lâche. On désire ce confort-là parce qu'on a travaillé pendant une vie. On désire cette stabilité qui n'était peut-être pas autant marquée par le reste de la vie et la jeunesse. Avec le temps, on connaît ses limites, ses goûts. La nouveauté perd graduellement de son lustre et un désir puissant de stabilité, de confort s'installe. L'humain en vieillesse peut parfois peiner à rester intellectuellement activé à cause de ces raisons-là. Et moins allumé, peut-être, et curieux, s'il ne maintient pas ces qualités-là. Et ses niveaux d'énergie peuvent diminuer. Et graduellement, on sombre peut-être à quelque chose de nouveau. Un jour, c'est à nous de quitter pour de bon. C'est à notre tour. Après avoir vu nos camarades succomber, ce sera à nos proches, plus loin de la mort que nous, de perdre à jamais quelqu'un. Ce quelqu'un étant nous-mêmes. On redoute la mort pendant une vie pour en venir à ça. Et malheureusement, on n'est pas toujours prêt à quitter quand le moment est venu. D'un côté, c'est naturel de devoir partir. On l'a énoncé. Et on est forcé, dans la fin, d'accepter l'affreux pour faciliter la transition de tous ceux qui nous entourent et de nous-mêmes, de se laisser glisser, malgré la peur. Cette peur de faire face à l'inconnu absolu et à l'abysse. On meurt parfois de vieillesse, parfois on dit plutôt qu'on veut mourir de vieillesse, mais corrigeons cette phrase et cette pensée. Parce que personne ne meurt de vieillesse. L'âge en soi ne tue personne. Une cause directe associée à la faiblesse de l'âge explique toujours le décès. Un cancer, une crise cardiaque, l'Alzheimer, un problème respiratoire, Les chances sont contre nous et on finit par s'affaisser. Toujours. Et donc, lorsqu'on parle de mourir de vieillesse, dans la paisibilité, malheureusement, ça ne semble pas être souvent le cas. C'est déchirant, plus souvent qu'autrement. Tout ce qu'on peut espérer, c'est avoir été assez humain pendant notre vie et le court laps de temps qu'on avait pour s'être entouré et avoir attiré des esprits forts qui seront là avec nous jusqu'au dernier souffle. La mort, c'est un processus de passation avant tout. Et je ne crois pas que ça se boucle seul. Il y a une transmission de quelque chose qui se fait. Et puis, c'est le néant final. Plus rien. C'est terminé. On n'a pas de connaissance du vide, pas d'au-delà. Le vrai vide, comme il doit être. Effrayant à penser. Est-ce qu'on se souvient de quoi que ce soit avant notre naissance? Non, je crois pas. Et voilà donc le parallèle, peut-être, difficile à faire pour la mort. Cette inconscience qui nous est si inconnue. Pour finir, l'être humain est un animal qui est blessé dès le départ. Non seulement parce qu'il y a des limites de temps, mais parce que sa conscience débilitante du cours des choses et de l'évanescence de sa propre existence le caractérise profondément. Et on entend souvent parler peut-être d'immortalité. Et c'est un autre sujet dans lequel il y a peut-être une possibilité d'analyser, disséquer encore plus en profondeur les pour, les contre. Cette immortalité peut-être qui est proche de nous d'une certaine manière, il y a des recherches scientifiques qui sont faites. Nous sommes peut-être juste un peu trop tôt pour y toucher. L'être humain a peut-être ce désir de se diviniser. Mais qui aura accès à cette immortalité-là si elle vient un jour? Et comment cette narrative-là se développera-t-elle? Qui serait le plaisir? Et si vous m'écoutez en ce moment, sachez que les chances sont que vous serez parmi les derniers mortels de la race humaine. La science, comme je l'ai dit, pousse dans cette direction de plus en plus. Tout ce que nous avons, c'est cette courte vie. Et nous devons maximiser cette petite période de vitalité. Nous ne pouvons faire autrement. Et un jour, lorsqu'on part, on est englouti par ce cycle écrasant de la vie. Et on emporte nos regrets, nos échecs et nos grands coups avec nous. Et dans ce tango infernal avec la mort, ce défi audacieux qu'on lance à l'infini, on ne peut qu'espérer laisser sa marque sur un monde trop grand, mais plus vulnérable que tout. Merci de votre précieuse écoute. C'est une importance capitale pour moi de toucher à tous ces sujets profonds. Du moins profonds pour moi. Et la mort en est un que je ne souhaiterais jamais éviter. Gardons l'approche de notre cœur. Vous savez que vous pouvez aller sur iTunes pour vous abonner. Vous pouvez aller sur YouTube pour vous abonner. Vous pouvez aller sur Google Play. Tout est disponible sur ces trois plateformes, dépendamment de vos conditions et de ce que vous préférez. En ce qui me concerne, si vous avez des commentaires à me faire personnellement, ça me ferait plaisir. Et on se reverra la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne nuit et à plus tard.